Cube Radio. Yasmine Abdel-Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe.
Cube Radio, Cube Radio.
Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Bonjour et bienvenue sur Cube Radio. On est déjà le 10 août et je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour les deux prochaines heures. Vous l'avez peut-être remarqué, mais on recommence tranquillement à reparler politique, particulièrement les tractations entourant les élections provinciales qui arrivent à grands pas. Je rappelle qu'on ira collectivement voter. J'aimerais dire qu'on va tous voter le 3 octobre prochain. C'est donc le festival des annonces de candidatures. Hier encore, plusieurs partis politiques ont annoncé des candidats un peu partout au Québec. Premier ministre et chef de la CAQ, François Legault, a été particulièrement actif hier. Il a annoncé deux candidatures. Madame Aïtayan, une gestionnaire CAD chez Ubisoft, qui va se présenter dans la circonscription de Laval-des-Rapides, un comté qui est actuellement détenu par le libéral Saul Polo. Est-ce qu'elle va réussir à gagner ce comté-là pour la CAQ? C'est à suivre. Il y a également Mme Christine Fréchette, qui est ancienne présidente de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ancienne chef de cabinet adjointe de Jean-François Lisée, on se rappelle qu'elle avait claqué la porte du cabinet de Jean-François Lisée pour dénoncer la Charte des valeurs de Bernard Drainville. Bernard Drainville, qu'elle va avoir comme collègue si elle est élue. Ça risque d'être particulier. Donc, Madame Fréchette, elle va tenter de succéder à Daniel Mécan dans Sanguiné. Daniel Mécan, qui a été ministre de la Santé au début de la pandémie et ensuite ministre responsable de l'enseignement supérieur. Et François Legault, c'est aujourd'hui qu'il va confirmer la candidature de Martine Biron, l'ex-analyste politique à Radio-Canada, dans la circonscription des Chutes de la Chaudière. Le premier ministre a d'ailleurs profité hier du point de presse. Je ne sais pas s'il en a profité, mais ça a quand même été l'occasion de lui poser quelques questions sur la saga Marie-Ève Proulx, qu'il a d'ailleurs défendu. La députée Côte-du-Sud, qui est encore prise avec des allégations et des plaintes en harcèlement psychologique, s'est sortie hier dans le Journal de Montréal. Et le premier ministre, il dit croire sa députée, qui lui a parlé et que que ce qu'elle lui a raconté était crédible. Donc, le premier ministre s'est devenu un juge. Il a déterminé que c'était correct, que c'était la version de Marie-Ève Proulx qu'il croyait et qu'elle avait toute sa confiance. Il dit aussi que c'est la parole de la victime alléguée contre celle de sa députée. On l'écoute. On va écouter d'abord Dominique Anglade, la chef de l'opposition officielle, qui dénonce le laxisme de François Legault à l'égard de Marie-Ève Proulx.
On envoie le message que ce n'est pas tolérance zéro. C'est pas la première fois que François Legault fait ça. Et encore une fois, c'est une question de valeur, c'est une question de conviction, de principe que tu défends. En 2022, toutes les questions par rapport au harcèlement, on devrait avoir une politique de zéro tolérance par rapport à ça.
D'abord, l'harcèlement psychologique, c'est tolérance zéro. Ça, soyons clairs. Quand je parle avec Marie-Ève Proulx, me dit que cette personne a pas de raison d'avoir porté plainte. Le dossier devant le tribunal, c'est la parole d'un contre la parole de l'autre. Moi, je fais confiance à Marie-Ève Proulx qui n'a pas eu de problème avec cette personne-là. Maintenant, on va attendre la décision du tribunal.
Je sais pas pour vous, mais moi, je suis mal à l'aise avec les deux extraits. Le premier, c'est Dominique Anglade qui dit que ça devrait être tolérance zéro pour les questions d'harcèlement psychologique. Puis je suis d'accord qu'on devrait juste pas accepter ça, mais rappelons que Mme Anglade avait mis dehors Marie Montpetit pour exactement les mêmes raisons, sans qu'il y ait de tribunal qui tranche en faveur ou en défaveur de Mme Montpetit. Elle aussi, elle s'est érigée en juge. Même chose que fait le premier ministre, lui, il décide que c'est sa députée qu'il croit, pas la victime. Est-ce qu'il y a des principes de prudence qu'on devrait rappeler à nos politiciens pour leur dire que dans ces cas-ci, tant la victime que l'harceleur allégué, la victime alléguée, je devrais dire, devrait prouver, devrait pouvoir s'expliquer avant que l'on détermine quelle version finalement on croit. Mais tout porte à croire que le premier ministre ne montrera pas la porte à Marie-Ève Proulx en vue des prochaines élections, elle qui a déjà été investie dans son rôle de candidate dans la circonscription de Côte-du-Sud. À la une, dans la presse ce matin, on apprend que devant le manque flagrant de soignants dans les communautés du Nord, les autorités locales ont demandé le renfort de rien de moins que l'armée. C'est à ce point critique. Et cette requête a été rejetée par Québec, qui mise plutôt sur l'envoi très rapide d'effectifs médicaux. On ne sait pas ce que ça veut dire, combien. Et avec, ils disent vouloir signer une entente avec la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide rapidement aux communautés du Nord. Mais pourquoi c'est maintenant qu'on décide d'envoyer les effectifs rapidement et de conclure une entente avec la Croix-Rouge? Pourquoi on ne l'a pas fait avant que la situation devienne critique, qu'on soit à minuit moins une, que les communautés demandent l'armée? C'est-tu parce qu'on ne veut pas avoir à demander au fédéral quoi que ce soit, encore moins l'armée? On s'en rappelle, on a fait appel à eux durant la pandémie. La question se pose, particulièrement avant une campagne électorale. Toujours dans la presse ce matin, on apprend que la rentrée scolaire va se faire sans masque. Ça fait déjà plusieurs mois que la directive, disons l'obligation, a été levée. Aujourd'hui, ça dépend de chaque personne si elle décide de le porter ou pas. Le gouvernement a tout de même commandé 30 millions de masques et on peut pas leur reprocher d'être prudent cette fois-ci. On peut pas leur reprocher de prévenir plutôt que d'attendre les éclosions pour dire « OK, quoi faire ?» On sait qu'il va y avoir une 8e vague et bien que le port du masque n'est pas obligatoire, est-ce qu'on peut vraiment se permettre d'attendre avant de passer les commandes plutôt que d'avoir un stock que l'on pourrait déployer rapidement? Moi, je pense que on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. C'est une bonne chose que le gouvernement fait et c'est bien ce que la pandémie nous aura appris. Dans le Journal de Montréal, il y a Annabelle Blé et Marie-Christine Trottier du bureau d'enquête qui se sont penchées sur la composition des candidatures de chacun des partis politiques. La question qu'elles se sont posées, c'est qui est réellement le parti champion des familles? On sait que c'est une étiquette que tout le monde veut s'accoler. Tout le monde dit « c'est nous le parti des familles, c'est nous le paradis des familles ». Eh bien, à date, et c'est important de noter que c'est à date, parce qu'il manque plusieurs candidatures qui n'ont pas encore été nommées dans différents partis, eh bien, c'est la CAQ qui serait la championne de famille, tout simplement. Là, c'est le seul facteur qu'on détermine là-dedans, c'est le nombre de parents parmi les candidats. À date, on a 81% chez la CAQ, 65% chez le Parti conservateur, 76% chez les libéraux, 57% au PQ, et c'est Québec solidaire qui ferme la marche à 53. Mais il faut noter, pour être juste, un fait important, la moyenne d'âge de Québec solidaire est beaucoup plus jeune que les autres partis. On parle d'un 39 ans de moyenne d'âge auprès des candidats, ce qui pourrait expliquer ces chiffres.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
David Santarossa, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Alors, on revient sur la question, en fait, tu veux revenir sur ma chronique au Journal de Montréal d'hier à propos des sacs d'école et des fournitures scolaires pour les familles les plus démunies.
Oui, tout à fait. C'est l'opération sac à dos dont on parle beaucoup quand même dans les derniers temps. Je lis ici, là, sur les réseaux sociaux, hein, donc un organisme qui vise à équiper les jeunes pour la rentrée scolaire, donc sac à dos et tout ce qui rentre dans ce sac à dos-là. Comme tu l'expliquais, il y a beaucoup d'élèves qui vont arriver à la rentrée scolaire en déficit de matériel. On parle de crayons, règles, compas, calculatrices, etc. Donc oui, je pense que c'est un enjeu qui est important. Hein? Donc, faut arriver à l'école équipé. C'est comme la base. On peut pas s'en passer. Et d'un côté il y a ça, mais il y a aussi de plus en plus de familles de la classe moyenne qui ont cette tendance-là. Et ça, c'est quelque chose de positif de recycler ce qu'ils utilisent déjà, parce que j'ai l'impression qu'il y avait une tendance à jeter beaucoup. J'ai souvent vu des enfants, à la fin de l'année, ben on prend le sac puis on ce qu'il y avait dedans, ah ouais, au recyclage, ah ouais, dans la poubelle. Mais de plus en plus, OK, qu'est-ce que je peux réutiliser pour l'année prochaine? Et ça, je trouve ça assez intéressant aussi là, comme mouvement.
Mais ça, c'est quand c'est fait avec une conviction, que ce soit environnementaliste, soit de recyclage, soit de vouloir ne pas avoir à gaspiller, que ce soit des ressources financières ou même juste des ressources matérielles que l'on a déjà et qui sont encore bonnes. C'est une chose quand on est obligé d'utiliser des ressources qui sont déjà maganées pour pouvoir faire face à l'année par manque de moyens. C'est là où le bât blesse.
Oui, exactement, t'as entièrement raison. Donc je t'appuie à 100%, puis j'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller donner si le cœur leur en dit. Comme si je le disais tantôt, là, il y a aussi ce cas de figure que dans les écoles peut-être plus aisées, où est-ce que j'ai vu des enfants être vraiment insouciants avec leur matériel, donc mettre ça aux poubelles, et j'ai l'impression que collectivement, il y a peut-être aussi une espèce d'apprentissage là-dedans à faire, tu sais, de prendre soin de ces choses. Il y a vraiment une éducation à faire avec ces enfants. Dans les écoles, je pense aussi, les souliers souvent sont déchirés très rapidement. On les met d'une manière un peu loufoque, hein, en écrasant le talon un peu. Ben, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une espèce de conscientisation à faire sur on doit faire attention à nos choses. Ça coûte cher, hein, les adolescents sont pas toujours conscients de la valeur de l'argent. Puis il y a quelque chose qui est important ici, là.
Non, c'est vrai que ça fait partie du rôle des parents puis de tous les intervenants auprès de l'étudiant, de l'écolier, que de rappeler que le gaspillage, ben, c'est sur toutes ses formes que l'on devrait le rejeter, tant d'un point de vue alimentaire que d'un point de vue des effets scolaires, des vêtements et autres.
Oui, tout à fait. Puis, évidemment, toute la question que tu poses aussi, c'est celle de la gratuité scolaire, hein? Parce que c'est en théorie notre système d'éducation est gratuit au secondaire, au primaire et au secondaire. Mais en même temps, on lit ta chronique, les parents écoutent ce que je dis en ce moment, puis on se dit, ben attends, c'est pas vrai que c'est gratuit. Il faut quand même que je débourse certaines choses. Et la loi est assez claire sur ce que les parents doivent payer, ce que l'État doit payer. Donc, je l'explique très rapidement. Donc, l'État doit payer les manuels, les dictionnaires, les outils technologiques. C'est tout ce qui est en fait qui peut être utilisé année après année. Ça, l'État peut s'en occuper. Et quand je parle de manuel, c'est vraiment où est-ce que les notions et où est-ce qu'on n'écrit pas dans le manuel. C'est vraiment un
livre de référence, un bouquin de référence.
Oui, exactement, exactement. Par contre, les parents doivent débourser l'argent pour tout ce qui est périssable, entre guillemets. Donc, tout ce qu'on peut pas réutiliser année après année. On peut parler des cahiers d'exercice, les crayons de bois, les stylos, etc. Et ce qu'on remarque sur le terrain, c'est qu'il y a de moins en moins de manuels. Je m'explique, de plus en plus, les cahiers d'exercice contiennent aussi les références, les explications. Donc, il y a de moins en moins de manuels qu'on réutilise année après année et de plus en plus de cahiers d'exercices qu'on utilise pendant juste un an, puis l'autre année d'après, ben on peut pas le redonner au petit frère, la petite sœur. Donc, ça fait en sorte que les parents ont à payer de plus en plus de choses. Et cette gratuité-là recule année après année, je pense.
Ben hier, David, après la publication de ma chronique, ben je suis allée chercher ma fille à la garderie juste après, on est parti à la papeterie acheter la liste que je trouve quand même assez impressionnante pour un enfant qui s'en va à maternelle 5 ans. Ça commence tôt les listes avec les différents besoins, et je dois te dire que la facture est quand même montée à 160$. $160
ah oui, hein.
Pour un enfant de la maternelle avec un petit panier constitué de duotang puis le coffre à crayons qui veulent qu'il soit un rigide, un qui soit de deux compartiments, des feutres, des crayons de bois, des crayons de mine. Je me dis, ça ressemblera à quoi en cinquième secondaire?
Ouais, ça vaut la question, hein? Puis si je me trompe pas, ta fille, elle rentre en maternelle.
Maternelle,
donc,
là.
Oui, c'est ça. Donc, quand même, oui, c'est très cher. Puis, avec l'inflation, on peut s'imaginer aussi. J'ai pas encore été là, dans ces commerces-là, mais on peut s'imaginer que les tout a augmenté de prix, hein, les crayons, les coffres à crayons, comme tu le dis.
Donc, tout coûte cher. Et c'est difficile pour les familles à moindre revenu, parce que quand on se présente là, puis qu'on a une liste, comment nous, comme parents, pouvons juger ce qu'on peut ne pas acheter dans cette liste-là versus ce qu'on doit acheter? Comment on peut faire cet arbitrage-là entre, ben non, moi, je pense que les crayons, les deux paquets de 16 feutres ou qui contiennent du beige, parce qu'ils sont très spécifiques, là, il faut quand même pas ne pas avoir du beige dans son coffre à crayons. comment je peux déterminer que, ben non, c'est un caprice? Je peux pas. Je peux juste payer.
Ouais, puis dans certaines écoles, à nouveau, je veux pas généraliser, mais l'espèce de mise à jour du matériel est pas nécessairement toujours bien fait. Et ça vaudrait la peine de se poser la question, est-ce que tout ce qui est dans ma liste est véritablement nécessaire, ou des fois c'est un petit peu un caprice, justement l'exemple du crayon feutre beige, est-ce vraiment nécessaire? Donc oui, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, j'attire l'attention de nos auditeurs à aller voir une vidéo qui est tout à fait culte sur YouTube. C'est celui de Jean-Luc Mongrain qui pète sa coche, si on permet l'expression, sur, je pense que c'est ça, c'est un enfant en première année. Et la liste est très, très longue. Bon, c'est un petit peu caricatural, c'est un petit peu exagéré, mais c'est quand même très drôle. C'est garanti que nos auditeurs vont vraiment bien rigoler.
J'ai l'impression qu'il y a comme des pics de visionnement dans YouTube avec ce vidéo-là. Tu sais, mois d'août puis de mois de septembre, ça explose. Puis après, on n'entend plus parler. Ben là, je pense que ça va exploser dans les prochaines semaines. J'aimerais aussi t'entendre sur les masques. Là, on nous dit qu'il n'y en aura pas de masques dans les écoles à la rentrée scolaire. Mais peut-on vraiment prévoir l'avenir?
Moi, j'ose une prédiction. Je ne pense pas qu'il y aura de masque à la rentrée scolaire. Mais mon petit doigt
ça, c'est déjà confirmé.
Oui, ça, c'est confirmé, tu as raison. Et mon petit doigt me dit que quelque part après le 3 octobre, quelques jours après, le masque va revenir tranquillement. Je ne sais pas pourquoi, après le 3 octobre, j'ai dit ça comme ça, Yasmine.
Je sais pas qu'est-ce que t'as dans ton agenda le 3 octobre. Moi, j'ai rien, là. J'ai absolument rien planifié. Je comptais rester à la maison, prendre un bon petit café.
Alors, bien sûr, c'est... comme on le sait, c'est les élections. Et j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, que la CAQ, s'il remet le masque, il va avoir une espèce de petite écœurantite aiguë de la part des concitoyens, et ça risque de nourrir la base d'un Éric Duhaime, par exemple.
C'est vrai que ça pourrait ramener Éric Duhaime à l'avant-plan s'il y a une obligation de port du masque dans les établissements scolaires. On va voir ce que la santé publique, elle, va recommander pour la 8e vague. On sait qu'on va avoir des points de presse prochainement pour avoir plus d'informations là-dessus. David Santarossa, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se parle demain.
L'actualité peut être caniculaire. Donnez un coup de fraîcheur à l'information. Yasmine Abdel Fadel. La chronique Argent.
Une vision des finances pas comme les autres.
On se rappelle du PDG de Air Canada qui avait de la misère, à répondre à notre ami Zappa de TVA puis de LCN parce qu'il était incapable de parler français tout simplement. Eh bien, Air Canada prend le taureau par les cornes et cherche des professeurs de français. Olivier Bourque, penses-tu qu'ils vont réussir, eux, à trouver des professeurs de français lorsqu'il y a pénurie partout?
Partout? Ah ben effectivement, c'est la bonne question. Ça se fait dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Et le journal également y était, Yasmine. Cette journée, je crois que c'était le 4 novembre. Effectivement, on va s'en rappeler. Et je crois que Michael Rousseau également s'en rappelle. Ça avait été une sortie assez catastrophique. On reviendra pas là-dessus, mais c'est sûr et certain que depuis ce temps-là, donc depuis cette sortie de Michael Rousseau à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, puis il y avait de la misère, tu t'en rappelles, à parler français, puis même à répondre aux questions des journalistes, ben c'est sûr et certain que la question du français... c'est revenu lorsqu'on parle d'Air Canada. Alors, ils cherchent maintenant des professeurs de français, des enseignants, des formateurs également, donc de français langue seconde. Ça veut dire quoi, ça, Yasmine? Ça veut dire que ça concerne de premier chef les employés anglophones d'Air Canada. Alors, il y a vraiment un désir actuellement, donc du transporteur, d'assurer des cours de français. C'est ce qui nous a été confirmé hier, puis même si on a découvert ça du côté du journal, parce qu'on est allé sur les offres d'emploi. Alors, donc vraiment, ça a été fait lors des dernières journées. Et on en cherche pas mal, c'est ce qu'on nous a dit également. Alors, pas seulement un professeur de français, alors comme tu l'as dit, ça se passe dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Je ne sais pas s'ils seront capables d'aller chercher le nombre d'enseignants qu'ils veulent. Faut dire aussi que c'est pas décoratif à Air Canada, Yasmine, tout ça. Air Canada doit respecter la loi sur les langues officielles, est assujetti à la loi sur les langues officielles. Il y en a qui voudraient que la loi 101 s'applique donc à la compagnie aérienne, mais étant donné que c'est une loi et que c'est une compagnie qui est sous juridiction fédérale, donc c'est la loi sur les langues officielles. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un passager qui vole sur les ailes d'Air Canada, ben, il doit avoir le service dans la langue, dans sa langue, donc le français ou l'anglais. Et on sait que pendant plusieurs années, il y a eu des plaintes contre Air Canada. Alors, je ne sais pas si tu as volé sur les ailes d'Air Canada dernièrement. Que tu sois à Montréal ou que tu sois à Bangkok, tu te dois d'avoir du service en français.
Même chose pour les douanes. Même chose pour les douanes. Et à beaucoup de Québécois, je rappelle ceci, moi, je le fais systématiquement à chaque fois que j'atterris, que ce soit à Vancouver ou à Toronto, et que je me présente devant un douanier, ben je parle en français parce que je suis en droit de me faire servir en français par l'agent des services frontaliers du Canada. Ils sont dans l'obligation de me répondre en français. Je n'ai pas à me plier à parler en anglais.
Oui, puis tu as tout à fait raison, Yasmine, il faut le dire aux gens, là, que ce soit donc aux douanes, que ce soit à l'aéroport, encore là, donc c'est sous juridiction fédérale, que ce soit à l'intérieur donc d'un vol d'Air Canada, si vous n'avez pas le service en français, puis des fois, évidemment, donc ça peut être l'inverse en anglais, mais on a vu que lors des dernières années, c'était surtout au niveau du français que c'était problématique, il faut le dire. Il y a eu tout le contexte de Michael Rousseau, on ne reviendra pas là-dessus, mais je veux juste te rappeler un événement en marge de ce qui s'était passé donc à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Après ça, il y avait eu un comité sur les langues officielles. Ça, c'était au printemps. Et à cette époque-là, peut-être vas-tu t'en rappeler, Yasmine, c'était la première fois qu'on allait entendre Michael Rousseau s'exprimer devant les élus lors du comité et on pouvait juger l'état de son français. Alors, ça avait été assez difficile. Il avait prononcé, je me rappelle, seulement quelques mots en français.
Je m'excuse. Je suis désolé.
Voilà, on dirait exactement. qu'il a le même prof de français que notre gouverneur général du Canada.
Oui, ouais, exactement. J'espère qu'il ne partage pas le même professeur de français parce que lui, ça lui prend des cours à temps plein. Alors, à ce moment-là, on s'était rendu compte qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup de croûte à manger avant de pouvoir parler en français. Mais il y avait un événement également intéressant lors de ce comité aux langues officielles, Yasmine, c'est que Air Canada s'était vanté qu'ils avaient donné 130 000 heures de cours de français à leurs employés. Alors là, tout le monde avait dit 130 000 heures, c'est beaucoup. Mais après ça, on avait découvert que c'était 130 000 heures depuis 2015. Sur 7 ans, c'était 130 000 heures. Et après ça, on divise sur 10 000 employés d'Air Canada qui ont des cours de français. On s'était rendu compte que c'était moins de 2 heures de cours de français par employé par année. On va pas loin. Lorsqu'on sait, bon, évidemment que le français, c'est un petit peu plus, on pourrait dire, sophistiqué ou plus difficile que l'anglais. Alors, c'est pas avec 2 heures ou moins de 2 heures par année que les employés d'Air Canada vont apprendre le français. Alors, c'est un problème, toujours, pour le transporteur. Hier, on a parlé avec un ancien cadre d'Air Canada, puis il a dit, OK, c'est correct de faire des efforts, d'aller chercher des professeurs de français, mais c'est une culture d'entreprise, également, qu'il faut changer à Air Canada. On le sait très bien, que les employés, jusqu'à la haute direction, souvent, on parle en anglais. Alors, il dit ça prendrait un audit externe, ça prendrait une enquête, ça prend des données. Quel pourcentage des employés d'Air Canada parlent français? Est-ce qu'ils peuvent se permettre même de parler français, donc à l'intérieur, par exemple, d'une réunion? Alors, ça prend des données, mais c'est sûr et certain qu'à partir du moment où le haut dirigeant, Michael Rousseau, faut être honnête, là, pendant 14 ans, se contrefoutait du français. C'est sûr et certain que ça voyait pas un très bon message pour les employés.
Ben pour la petite anecdote, puis évidemment que c'est pas de sa faute, mais je sais pas si tu te rappelles de la clip, la vidéo de Michael Rousseau qui arrive pas à répondre à Pierre-Olivier Zappa et que finalement, c'est la personne qui l'accompagnait, l'attaché de presse, qui a répondu à sa place.
Pascal
Derry, qui est aujourd'hui candidate pour la CAQ.
Oui. Oui, exactement. J'ai trouvé ça assez savoureux, je vais t'avouer. Il y a eu des questions, tu t'en rappelles, lorsque Pascal Derry a été, elle a annoncé sa candidature pour la CAQ. On lui a demandé si le français c'était vraiment important pour elle. Parce qu'on sait que c'est, on pourrait dire, une des pierres angulaires de ce gouvernement caquiste, notamment avec Simon-Jolin Barrette. Elle avait dû répondre à ces questions-là et ça avait été assez laborieux, on s'en rappelle.
Ben évidemment, c'est difficile pour elle de contredire son ancien employeur. On comprend qu'elle est prise entre deux feux et qu'elle n'a pas nécessairement envie de répondre à ça. Je pense que c'est une crise qu'elle a gérée et qu'elle veut mettre derrière elle.
Voilà.
Sinon, au port de Montréal, Olivier, oui. Dis-moi donc, t'as-tu un petit container qui traîne là-bas que t'es pas allé chercher comme le commun des mortels?
Comme le commun des mortels, ben c'est sûr que ça concerne pas beaucoup, je te dirais, les citoyens lambda comme toi et moi. C'est rare qu'on ait un conteneur qui traîne du côté du port de Montréal. Mais il y a plusieurs importateurs, cela dit. Il y a des PME, des fois, ça peut être une petite PME, ça peut être un fabricant de vélos, par exemple, Yasmine, qui attend des pièces. Hein, qui attend des pièces et qui les a reçues au port de Montréal. Et là, de plus en plus, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a davantage de conteneurs, puis il y a de la congestion. Et ajoute à ça, à chaque fois, ma pulsation augmente. Toute la réflexion sur la 25 et le pont tunnel, c'est que le pont de Montréal est situé juste à côté. Alors, bonjour les problèmes lors des prochaines années. Là.
Allez les chercher avant déjà le mois de novembre, ça va être plus facile.
Oui, c'est ça. Allez les chercher avant qu'ils fassent la réflexion jusqu'en 2025, c'est une bonne idée. Ce qu'on se rend compte, c'est que les conteneurs s'empilent, ça prend de plus en plus de temps pour les clients finaux ou les importateurs pour aller chercher les conteneurs. L'an passé, c'était plutôt 5 jours que ça prenait. Donc, entre l'arrivée du conteneur et le client qui vient le chercher, on comprend qu'un conteneur, c'est très, très gros. Donc, après ça, évidemment, il faut l'entreposer. Depuis le début de l'année, ça prenait 8 jours pour aller chercher le conteneur. Et là, on est rendu à 12 jours. Et là, j'invite les gens, souvent on dit que la chaîne d'approvisionnement ne tourne plus rond. J'invite les gens à se rendre sur le site du Journal de Montréal, un excellent texte de Martin Jolicoeur. On voit ce qui marche pas, là. C'est un bon exemple, là. C'est qu'on est passé du « just in time ». Alors, « just in time », c'est juste à temps. Les clients commandaient, recevaient leur conteneur, à peu près donc au moment où il le souhaitait, allait le chercher et tout fonctionnait bien. Là maintenant, étant donné que la chaîne d'approvisionnement ne tourne plus rond, que des fois il manque des pièces, puis que là le fabricant, il y a des délais, alors et le fabricant et le client, on est rendu dans le « just in case », juste au cas où j'en ai besoin. Alors, ça veut dire que des fois le conteneur arrive avant, des fois, donc, le client n'a pas nécessairement besoin tout de suite et là, le fabricant l'a envoyé. Ce qui fait qu'il y a actuellement donc une congestion du côté du port de Montréal et ça cause tout un problème actuellement. Là. Alors, et c'est pas seulement, faut le dire, c'est pas seulement à Montréal. On a vu ça, je sais pas si tu avais vu ça là, lors des derniers mois, dans plusieurs ports de la planète, notamment des ports chinois. Il y avait des problèmes.
Port de Shanghai, notamment, un des plus importants.
Notamment. Voilà, exactement. Alors, c'est pas seulement Montréal, mais actuellement, ça touche aussi Montréal. Je te dirais plus particulièrement là, depuis le début de l'été. Et on espère là, que ces problèmes d'approvisionnement vont finalement s'atténuer. Mais on sait que ça va prendre quand même plusieurs mois là, avant qu'on revienne à la situation qu'on avait avant la pandémie.
Il ne manquerait plus qu'une petite grève des débardeurs du port de Montréal pour arranger tout ça.
Voilà.
Sinon, à l'aéroport, on parlait du chaos dans les derniers jours, mais pas mal moins... on a eu pas mal de passagers, mais on n'est pas revenu au printemps, si on regarde les chiffres du printemps, aux chiffres qu'on avait avant la pandémie.
Oui, mais on le sait, Yasmine, tu as expérimenté la chose et j'ai expérimenté la chose également, donc à l'aéroport, ça revient tranquillement pas vite à la normale. On sait ce qui s'était passé à partir d'avril, mai, juin. Hein, les gens ont arrêté de faire de la rénovation, mais on dit on s'en va en vacances. Alors, et l'aéroport, on l'a dit plusieurs fois, n'était pas prêt, manque de personnel. Et pour l'aéroport et aussi pour les compagnies aériennes, depuis ce temps-là, Air Canada, par exemple, et d'autres compagnies aériennes, notamment Lufthansa, ont éliminé des vols, ont annulé des vols. Mais je te dirais qu'au printemps, c'était problématique. Et là, maintenant, on a les chiffres. Savoir, là, parce que souvent, on a dit, on est revenu à peu près à la même situation qu'avant la pandémie. Pour le printemps, c'était 4 millions de voyageurs à l'aéroport, comparativement à 475 000 en 2021. Alors, ça a augmenté, passablement. C'est pour ça qu'on a vu donc des problèmes, des chaos dans les aéroports. Mais on n'est pas encore à la situation pré-pandémique. En 2019, c'était plutôt 5 millions de passagers. Et je crois que c'était un record également à l'époque. Là. C'était vraiment un chiffre qui était important. Donc, on est à peu près à quoi? 80% de l'affluence qu'on avait avant la pandémie. Cela dit, ça s'est réglé. Je suis allé sur le site ce matin, Yasmine, de FlightAware. Alors, FlightAware, il regardait les délais, les annulations dans les aéroports. Et Montréal ne fait même pas partie de la liste. Alors, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle.
C'est pire ailleurs. On peut dire que c'est pire ailleurs.
C'est ça, exactement. Tu connais le dicton, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Alors ça veut dire qu'à Montréal, ça va relativement bien. Et Pearson à Toronto, tu sais que Pearson, à un moment donné, je crois que c'était au mois de juin, c'était une des probablement la pire situation dans le monde avec les aéroports chinois, là. Ils sont à seulement 3% d'annulation. Alors, ça s'est beaucoup amélioré, mais comme on l'a dit, il y a des vols qui ont été annulés dans l'intervalle. Mais tranquillement, pas vite, on est en train d'embaucher du monde. Puis on a l'impression que pour l'automne, dans les aéroports canadiens et aussi pour les transporteurs, la situation sera bien mieux qu'elle a été durant le printemps.
Et j'ai hâte de voir les chiffres par rapport au mois de juillet. Comment on se compare pour le mois de juillet cette année 2022 versus 2021 et 2020. Olivier Bourque, toujours un plaisir. On se parle demain.
Toujours un plaisir. Bye-bye.
Yasmine Abdel-Fadel. Une main de fer dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe.
Cube Radio.
On poursuit notre série de rencontres et de discussions avec les députés qui ont décidé de ne pas porter les couleurs de leur parti aux prochaines élections et de quitter la vie politique pour d'autres projets. Et aujourd'hui, on a avec nous Mme Kathleen Vail, députée de Notre-Dame-de-Grâce pour le Parti libéral du Québec. Et avant de commencer, je dois le dire, je dois me dénoncer. J'ai travaillé pour Mme Vail. Ça a été un plaisir de travailler pour Mme Vail, que je connais très bien et qui m'a donné mes toutes premières chances en politique. Mme Vail, bonjour.
Bonjour Yasmine, comment ça va?
Ça va très bien. Alors, vous quittez la vie politique après y avoir passé plusieurs années. Vous êtes arrivée comme la soccer mom. Comment vous quittez?
En fait, c'était hockey mom.
Ah, c'était la hockey mom, c'est vrai.
Oui, oui, tous les week-ends dans l'aréna. Oui, en effet, quand j'ai quitté, ma plus jeune fille elle jouait au hockey. Mon fils jouait beaucoup aussi. Et là, comme je l'ai dit en annonçant que je n'allais pas me représenter, que je vais pouvoir être un hockey grandmom. Parce que là, les petits-enfants arrivent. J'en ai trois maintenant, trois de mes enfants sur quatre. Alors, j'ai bien hâte de les accompagner aussi à l'aréna.
Est-ce que c'est ce que vous comptez faire à temps plein après la politique? Parce que c'est difficile, c'est difficile.
Mais en fait, c'est beaucoup de choses que je veux faire. Hein. C'est beaucoup de choses. Ce qu'on nous dit, hein, la recommandation, c'est quand on prend sa retraite, quel que soit le domaine dans lequel on a œuvré, c'est de prendre son temps avant de décider des activités qu'on va vouloir. Alors, j'ai déjà des gens qui m'appellent, surtout pour... Moi, c'est pas pour travailler pour un salaire, mais ce serait comme bénévole du conseil d'administration, mais pas tout de suite. Je veux vraiment y réfléchir. C'est sûr que qu'est-ce qui vient en tête après 14 ans de politique, ce serait de voyager, de découvrir, de passer du temps avec mes petits-enfants. Mais j'ai une grande famille, moi aussi. On est 7 frères et sœurs. Et souvent, j'étais la personne qui devait dire, je peux pas être présente, malheureusement, parce qu'on a quelque chose ce week-end. Hein? On a un congrès, on a quelque chose. Alors là, je vais pouvoir vraiment aussi...
Répondre présente à toutes les réunions, toutes les soupers, toutes les fêtes.
Mon mari, ils sont aussi 7 frères et sœurs. Alors, c'est deux grandes familles des deux côtés. Et d'autres choses, d'autres projets qui vont continuer à me stimuler intellectuellement. Mais je vais attendre de voir un peu qu'est-ce qu'il y a. Mais comme bénévole, comme je te dis là.
Vous avez été ministre de la Justice, vous avez été ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles, et vous avez été député, évidemment, à l'opposition. Lequel vous avez préféré des rôles?
Mais l'autre aussi, en dernier, excuse-moi, Yasmine, ministre responsable de l'accès à l'information.
C'est vrai.
Protection des renseignements personnels, mais de la communauté anglophone. Ça, c'était nouveau, c'était une première.
Et c'était important pour vous?
Ben, c'était intéressant. J'étais surprise, c'était intéressant aussi. Je dois dire que dans la séquence, c'était parfait de rentrer puis d'apprendre comment l'état de droit hein, et de tout comprendre au ministère de la Justice comment les choses se fonctionnent, qu'est-ce que ça veut dire vivre dans un état de droit. Et c'est quelque chose qui m'a tellement inspirée quand j'ai vu que j'étais chez moi au ministère de la Justice. C'est exactement... l'éducation que j'ai eue à McGill en étudiant le droit, et j'étais super impressionnée par la qualité des personnes au ministère de la Justice. Alors, c'était un très bon départ pour moi. Tu te rappelles tout le débat sur les accommodements raisonnables?
Bien sûr.
J'avais commencé tout ça quand j'étais à la justice.
Le fameux projet de loi 94 où 40 heures ont été faites sur l'article 1.
Puis ensuite, mais peut-être que le dossier que j'ai adoré le plus, c'était l'immigration. L'immigration, et c'est pas tous les ministres qui vont vous dire ça, l'immigration. Pourquoi? Parce que l'immigration, il y a le côté économique, le côté très humain, humanitaire. On peut toujours aider quelqu'un. Alors, pour moi, quand j'avais des cas comme ça, individuels, les gens autour de moi le savaient, il fallait tout faire pour aider cette personne à venir. Donc, ça pouvait être des employeurs qui avaient des problèmes à pas juste recruter, ils avaient recruté, mais que la personne rentre au pays. On travaille avec le fédéral, donc il y avait ce côté intéressant de... J'avais toujours des bonnes relations avec les ministres de l'immigration au niveau fédéral. Donc, il y avait tout ça et j'ai pu amener donc un grand changement à la loi qui n'avait pas été touchée depuis 60 ans, la loi sur l'immigration, le moderniser. Alors, il y avait ce côté stratégique que les gens ne voient pas vraiment. Quand ils pensent à l'immigration, ils voient juste les questions d'intégration. L'intégration se fait par tout le monde, mais tout le système d'immigration, c'est fort complexe, mais fort intéressant. Et le côté aussi humanitaire, je pense que le plus gros dossier que j'ai eu, c'était l'accueil des réfugiés syriens.
Oui.
Moi, là, c'était mon coup de cœur et c'est le Québec, et c'est moi qui avait dit au premier ministre, je l'ai appelé quand j'ai vu le petit élan, là, sur la plage. J'étais tellement émue que j'ai appelé au bureau du premier ministre et j'ai dit, Monsieur le premier ministre, il faut agir. Il faut agir vite. Alors, il dit, fais un plan. En fin de semaine, c'était la fin de semaine du travail. Il dit, on va faire un conseil des ministres. Alors, on a fait un conseil des ministres cette fin de semaine-là. Ils ont approuvé le plan que j'avais fait avec le ministère. Et allez hop, on était la première province à dire, nous, on veut agir. Alors, on a exercé un leadership important et le reste a été extraordinaire. Tous les Québécois voulaient embarquer. Tous les Québécois voulaient jouer leur rôle et puis ça m'a tellement ému parce que je disais, oh, on a tellement des grands cœurs. Alors, pour parrainer, etc., il y avait le parrainage par l'État si
oui.
et les groupes privés, mais j'avais des appels et des appels. Et donc, c'était un 24-7 de faire en sorte que ces gens puissent parrainer des réfugiés. Alors, je trouvais que on l'a déjà vécu avec les boat people. Le Québec qui a répondu présent. Donc, ça montre un côté vraiment extraordinaire des Québécois, je trouve. Et leur attachement à l'immigration humanitaire.
Absolument. Et quand vous étiez ministre de la Justice, vous avez également fait adopter la première politique nationale de lutte contre l'homophobie. Et
oui.
Est-ce que vous étiez déçu cette fin de semaine de voir le défilé être annulé, un défilé auquel
oui.
Il me semble que vous participiez religieusement?
Religieusement. Oui, j'étais vraiment déçue. Puis là, on comprend que ça semble être un problème de gestion quelconque. Et c'est vraiment décevant. C'est un incontournable. Un incontournable. Parce que le sens de tout ça, c'est vraiment une société inclusive où on ne juge pas. Et je pense que c'est un peu l'étendard de ce grand message. Et que toutes les sociétés y tiennent aussi, les sociétés modernes en Amérique du Nord, qui ont des défilés, on y tient tous. Alors, et parce que ça continue à être un problème pour ceux qui... Et quand on parle de l'homophobie, hein, c'est large maintenant, c'est très, très large. Et des jeunes qui le vivent toujours, toujours. L'exclusion. Donc, ouais.
On a été pionniers au Québec de la lutte contre l'homophobie avec cette politique que vous aviez proposée. Est-ce qu'il est temps de revoir cette politique? Parce qu'aujourd'hui, on parle aussi de transphobie, on parle de différentes autres manières d'exclure, de diviser, de rejeter, et pour lesquelles il faudrait encore plus fournir des efforts.
Oui, sûrement, ça pourrait... je pense que les gens le comprennent maintenant, comme tu dis exactement, beaucoup plus large. Et sûrement, on pourrait le revoir, le fignoler, l'enrichir. Mais je pense que l'esprit est là. Et en fait, à l'époque, on avait vérifié, on avait essayé de voir s'il y avait des politiques semblables dans le monde. Il n'y en avait pas, on n'en a pas trouvé. Moi, je disais qu'on était le premier État à avoir une politique de ce genre. mais on n'a jamais pu confirmer absolument, mais on n'a rien trouvé ailleurs. Mais je pense que tu as raison. Ce serait intéressant de regarder pour voir si, de toute façon, le concept maintenant est beaucoup plus large. Et les débats qu'on a à l'Assemblée nationale sont beaucoup plus larges et qui comprend tous ceux qui vivent l'exclusion. J'ai fait des législations, on en parle d'ailleurs, il y en a une cette année aussi. Comme tu dis, c'est plus complexe que juste l'homophobie, c'est le rejet de la différence d'un point de vue sexuel ou d'identité de genre. Mais c'est une société qui avance beaucoup quand même.
On continue d'évoluer à un certain rythme. Peut-être que certains trouveraient que l'évolution, elle est ralentie, mais quand on se compare, on se console. Madame Veil, j'aimerais aussi vous entendre. Je sais que c'est quelque chose qui va vous avoir touché, étant donné que je vous connais personnellement. Vous avez probablement vu la sortie de Jean-François Lisée hier concernant cette publicité d'HEC Montréal destinée aux étudiants algériens avec une fille qui porte le hijab.
Je l'ai vu en passant. Je suis en Nouvelle-Écosse actuellement, donc on n'a pas de télévision et tout ça, mais... pas assez pour faire un commentaire, mais qui fait, j'ai vu ça très rapidement en passant. Qu'est-ce que c'était exactement?
Monsieur Lisée reproche à HEC Montréal de faire des publicités avec des jeunes filles portant le hijab et disant que c'est un symbole de misogynie et de soumission et de domination, évidemment, de la femme.
Mais Yasmine, on l'a vécu, nous, hein, toute la question des accommodements raisonnables et tout ça. Je continue à avoir la même vision, la même philosophie. Et qu'on partage avec beaucoup d'autres États, c'est qu'il faut accepter les gens tels qu'ils sont et les croyances qu'ils ont. Moi, j'ai même sélectionné, quand on me demandait des pubs, là, au ministère de l'immigration, je m'assurais qu'il y avait justement ce genre de diversité. Parce qu'il faut, on peut pas juger, moi, je pense pas, il faut montrer la société telle qu'elle est. Ces gens sont, ces personnes qui portent les hijabs ou un turban, c'est des gens qui sont pleinement intégrés. Et on le voit plus, là, quand on travaille avec des collègues. Et je me rappelle mes enfants, quand il y a eu le premier grand débat sur les accommodements raisonnables, qui était vraiment beaucoup fixé sur le voile. Je me rappelle ma fille qui me disait que sa copine, son partenaire de chimie, là, dans le laboratoire qu'il portait, elle dit « Maman, j'ai jamais vraiment porté attention à ça, ça m'a pas choquée du tout. » Alors donc, je trouve ça regrettable de mettre l'accent sur le voile. Éventuellement, les gens s'intègrent, mais ils s'intègrent à leur rythme et c'est pas le voile qui fait en sorte de porter le voile que cette personne n'est pas intégrée. C'est son niveau de confort pour toutes sortes de raisons. Et moi, je n'ai pas changé de philosophie à cet égard. On est beaucoup à penser comme ça. Et je pense qu'on aura toujours les deux points de vue. Quand on va en France, c'est différent. Hein? Moi, j'ai grandi avec l'éducation française, la Marie de France, et les Français ne pensent pas comme les Nord-Américains. Le Québec est entre les deux, oui. Je trouve.
Madame Veil, c'est toujours un plaisir de vous parler et je vous souhaite une excellente, de nouvelles aventures tout aussi enlevantes que celles que vous venez de relever en politique. Et je vous dis, j'espère à très bientôt.
Merci beaucoup, Yasmine. C'était un grand plaisir de te parler.
Nom, Abdel Fadel. Prénom, Yasmine. Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel Fadel.
Culture et société.
Le monde des influenceurs slash artistes slash animateurs slash participants des Big Brother de ce monde-là vont avoir un bébé. Alors, on parle de Claude Bégin et Lisande Nadeau qui auront un enfant ensemble. C'est Lisande Nadeau qui l'a annoncé hier sur les réseaux sociaux. Marika Simard, on veut tout savoir.
Ce matin, on saute à pieds joints. Dans ce monde, dans cet univers des potins, tu commences à me connaître. C'est un peu moins mon genre. C'est moins le genre de nouvelles auxquelles je m'attarde habituellement. Mais là, j'ai trouvé quelque chose de rafraîchissant dans cette nouvelle-là. Donc, tu l'expliquais bien. C'est le chanteur Claude Bégin et la créatrice de contenu Lisanne Nadeau, qu'on a connu dans le cadre de la télé-réalité Big Brother, qui ont formé un couple pendant un certain temps après cette télé-réalité-là. Ils se sont séparés il y a à peu près un an, un peu comme la majorité des couples qui se forment dans les téléréalités. Hier, par surprise, ils nous ont annoncé qu'ils attendaient un enfant alors qu'ils ne formaient pas un couple officiellement depuis donc plusieurs mois. Et on comprend donc dans cette annonce-là que l'enfant est une surprise, qu'il n'était pas planifié dans leur agenda commun. Et je trouve ici que les deux, Lisanne Nadeau et Claude, incarnent bien cette nouvelle génération qui cherche à redéfinir les pourtours de l'amour, à redéfinir les pourtours du couple, devant évidemment l'échec lamentable qu'a connu les mariages de nos propres parents. Alors, je trouve qu'on va être amené de plus en plus dans les prochaines années à redéfinir ce couple-là. Et là, je trouve qu'il l'incarne bien et qu'il l'assume bien sur la sphère publique.
Mais là, ils sont ensemble?
Non, ils sont pas ensemble techniquement. Ce qu'ils disent, c'est que, bon, ils vont communiquer, puis ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour cet enfant-là et c'est tout ce qui compte. Et je pense qu'on est rendu là, peut-être, dans notre société, dans notre génération, après, comme je le disais, beaucoup d'échecs dans les couples. Alors, quand l'amour, je dis l'amour avec un grand A, là, au sens large, et la communication, elle est là, je pense que ça peut donner quelque chose de beau, quelque chose d'intéressant, une famille 2.0. Alors, pourquoi pas? Je pense que ça peut fonctionner de sortir du couple traditionnel. Toi, je sais que t'es dans un couple très, très traditionnel. Je te sors peut-être de ton carcan ce matin.
Un couple 2.0, je suis comme, c'est quoi ça?
Ben, écoute, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de formule c'est magique. Vrai. Je pense que tout est dans la communication. Ils l'ont bien dit, on va continuer à communiquer. Et après ça, ça dépend des limites de l'un et de bien l'autre. Mais si ça fonctionne, pourquoi pas? Et si ça peut justement donner de beaux résultats et donner...
De l'amour à cet enfant qui va arriver.
Exactement.
C'est juste ça qui compte.
Parce que des chicanes de couple, il y en a, surtout devant les enfants. Et on veut en voir de moins en moins.
Ben, on leur espère tout le bonheur du monde dans tous leurs projets privés, comme pas privés. Il y avait, me semble que Claude Bégin avait une ex dans Occupation Double.
Oui, avec qui il a été pendant près de 8 ans. Il y a également un enfant, un petit garçon de, mon Dieu, 5-6 ans, okay. Si je me trompe pas. Donc, je pense que pour lui aussi, ça a été de soi là, d'avoir un second enfant, même s'il n'est pas avec la mère de cet enfant, du moins pour le moment. Peut-être qu'ils vont décider de s'essayer, mais d'après moi, ils vont juste continuer dans cette belle amour et harmonie.
Bonne chance à ses prochains parents d'un tout nouveau bébé. On leur souhaite tout le bonheur du monde. Et on est dans la chronique culturelle, mm-hmm. Mais on va parler de Serena Williams.
On va parler de Serena Williams parce que, on m'a pas confié le dossier sport là, ce matin.
Tu m'as pas dit ça!
Mais parfois, l'univers du sport va se mêler à la culture et à la société. Et c'est le cas avec cette grande nouvelle. Donc, Serena Williams, aujourd'hui âgée de 41 ans, qui a annoncé qu'elle allait prendre sa retraite dans les prochaines semaines. Et elle en a fait l'annonce dans le magazine Vogue. Et je pense pas que ce soit un hasard qu'elle ait fait cette annonce dans le magazine Vogue, qui est, ma foi, l'un des plus prestigieux et l'un des plus grands magazines de mode féminin au monde. On peut peut-être lire entre les lignes, on peut peut-être comprendre la tangente qu'elle souhaite prendre à sa retraite. Donc, on la retrouve ce matin à la une de ce magazine. Elle est accompagnée de sa fille. Elle porte une sublime robe bleu poudre signée par le designer Balenciaga. Et donc, dans ce long papier, on lit qu'elle prend sa retraite notamment pour se concentrer sur sa famille, mais également pour donner naissance à un second enfant. Et elle nous rappelle d'ailleurs dans ce long entretien qu'elle a remporté le US Open en 2017 alors qu'elle était enceinte de 8 semaines. J'avais oublié cette information-là. Je trouve ça tellement impressionnant. C'est une femme impressionnante.
Qui est revenue dans les courts de tennis après son accouchement. C'est assez impressionnant. Il me semble que, tu sais, moi, ça m'impressionne des Serena Williams, des Kate Middleton. Une porte des talons, l'autre joue au tennis après leur accouchement alors que la grande majorité d'entre nous, ben, on est vachés sur notre sofa en train de tirer du lait puis regarder Netflix.
Mais je pense que ça vient aussi de sa forme physique. Quand tu as toujours été très, très entraînée, très, très athlétique, je pense que tu reprends ta forme plus rapidement que...
Ça témoigne des heures que je ne passe pas au gym.
Oui, mais toi, ça, tout se passe ici, hein?
Si je pouvais perdre du poids en réfléchissant, je serais mince, mince, mince.
C'est donc une femme qui c'est une grande femme, une grande athlète, et c'est une femme aussi qui aime donner un spectacle, hein, sur le terrain de tennis, et elle a énormément dénoncé les doubles standards qui dans les sports, notamment le fait que les hommes pouvaient changer sur un terrain de tennis et pas les femmes. Donc tout porte à croire que les prochains projets seront à son image, des projets qui seront éclatants et sûrement, et on l'espère, dans le monde de la mode.
Elle a marqué le monde du sport. Un monde en étant une femme noire qui a été très qui a fait des exploits évidemment avec sa sœur, on s'en rappelle, dans le monde du tennis. Ben bonne chance pour Serena Williams, que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Il y a Olivia Newton-John qui se retrouve dans les sommets du palmarès de musique depuis son décès.
Ouais, ben là on apprenait dimanche après-midi qu'elle succombait à un cancer du sein, cancer pour lequel elle se battait depuis près de 30 ans. Mais là on remarque depuis un engouement pour sa musique, exit Beyoncé dans les palmarès de musique, Beyoncé qui vient de faire paraître un nouvel album. 7 chansons d'Olivia Newton-John se retrouve dans le top 10 des sites de téléchargement de musique aux États-Unis comme iTunes et Spotify. Du côté des États-Unis, c'est la pièce Hopelessly Devoted to You qui se retrouve en première position du palmarès.
Dommage que la caméra ne soit pas sur notre régie parce qu'il y a un méchant party.
Ah oui, c'est beau à voir. Je pense qu'ils ont trop bu de café ce matin.
Ils sont en forme. J'ai jamais vu du monde danser comme ça sur du Olivia Newton-John. Tant mieux, tant mieux.
Ben, je pense que notre Jean-François est un grand, grand fan parce que ça fait 2 jours qu'il me dit « Ah là, je t'ai trouvé des bons extraits. » là.
Marie-Cé Simard, toujours un plaisir de t'avoir. On se parle demain.
À demain.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
La fondatrice de Ma Place au Travail, Myriam Lapointe-Gagnon, on a appris ça hier, elle va être candidate pour Québec solidaire dans Rivière-du-Loup-Témiscouata aux prochaines élections. Myriam Lapointe-Gagnon est avec nous. Bonjour, Madame Gagnon.
Bonjour, bon matin.
Alors, vous faites le grand pas, le grand saut. Est-ce que ça veut dire que vous avez trouvé votre place au travail?
Ben oui, j'ai trouvé de nouveau une place en garderie. Heureusement pour cette femme, après avoir trouvé une place, l'avoir perdue, d'avoir recommencé le processus. Donc, du moment où j'ai pu justement repenser au fait que je pouvais regagner ma place au travail, c'était clair pour moi là, qu'il fallait que je saute puis que je prenne mon courage à deux mains pour aller me battre pour les enjeux des familles, mais aussi pour me battre pour toutes sortes d'enjeux qui me touchent, qui me préoccupent. Puis j'ai vraiment hâte de commencer cette campagne-là.
Pourquoi Québec solidaire? Pourquoi le Québec solidaire et pas un autre des partis qui vous a soutenu dans vos alliances à titre de présidente de Ma Place au Travail?
Pourquoi Québec solidaire? Premièrement, je pense que actuellement, là, c'est le parti qui offre une opposition crédible et forte à la coalition Avenir Québec. Puis aussi, c'est un parti là, qui représente des valeurs qui me collent à la peau, des valeurs écologistes, féministes, des valeurs de justice sociale, qui proposent des mesures là, concrètes puis une vision là, pour les enjeux qui touchent les gens dans leur quotidien. Actuellement, là, tu sais, on assiste justement à un recul de la place des femmes, mais on assiste aussi là à une augmentation de la pauvreté partout, puis à des débris de services en santé. Il y a plein de choses qui vont pas bien, qui m'inquiètent. Donc, je pense qu'en lisant le programme de Québec solidaire, moi, je me vois rassurée. Puis je suis rassurée non seulement pour les années à venir, mais je suis vraiment rassurée de voir une vision à long terme puis qui inclut, là, puis qui considère le futur même de mon enfant dans les décisions qu'on prend aujourd'hui, là, notamment par rapport aux changements qu'on doit faire pour lutter contre les changements climatiques. Donc, vraiment, je pense que c'est le parti actuellement là qui donne espoir à beaucoup de monde au Québec là, qu'on peut espérer un changement là, qui va nous faire avancer ensemble comme société.
Mais là, vous vous présentez à Rivière-du-Loup, Témiscouata. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais ce n'est pas connu pour être une circonscription, un bastion pour Québec solidaire. Est-ce que un éventuel échec, je vous le souhaite pas évidemment, mais un éventuel échec pourrait nuire à votre militantisme au sein de Ma Place au Travail, étant donné que vous serez teinté politiquement?
Ben, premièrement, moi j'y crois, puis il y a beaucoup de monde qui y croit, à voir la réaction qu'on a eue hier, puis le nombre de personnes qui sont prêtes à embarquer pour faire campagne. Je pense que pour gagner une élection, ça prend pas juste un candidat, une candidate, ça prend des gens qui croient au projet puis qui sont prêtes à s'impliquer. Donc pour ça, en tout cas, moi pour l'instant, j'y crois vraiment, je me visualise à l'Assemblée nationale là, en octobre. Mais ensuite de ça, pour ma place au travail, je me serais pas lancée si j'étais pas assurée que ma place au travail là, est actuellement une présidente, une porte-parole, un conseil d'administration fort pour les familles du Québec. Puis que je gagne ou non, je vais continuer à militer pour les choses qui me touchent et que je trouve qui font pas de sens puis qui me rendent un peu justement inquiète dans mon quotidien là, à tous les jours. Donc voilà, je vais jamais arrêter de me battre pour des valeurs qui sont fondamentales puis pour que mon fils ait le meilleur avenir possible aussi au Québec.
Comment, quelles sont les réalisations que vous souhaitez faire à titre de députée que vous n'arrivez pas à faire avancer à titre de militante, par exemple?
C'est une super bonne question. Tu sais, avec ma place au travail, on avait deux revendications principales. Ces revendications principales-là, ils n'ont pas été entendues puis ça n'a pas débloqué malgré tout ce qu'on a pu faire. C'est le droit à une place en garderie pour chaque enfant qui soit inscrit dans la loi, comme le droit à l'école, pour obliger le gouvernement à en créer réellement des places. Parce qu'on a beau en annoncer, si on ne s'oblige pas à le faire, bien, il peut y avoir tout le temps d'autres priorités finalement, puis on les maintient pas, nos promesses. Puis c'est ce qui est arrivé dans les derniers 4 ans. On avait promis 13 000 plus nouvelles places, puis on a créé un petit maigre, quelques milliers, je pense. Mais après ça, quand on regarde le nombre de parents qui sont en attente, ça a même augmenté. Fait que, tu sais, on n'a pas répondu à ces promesses-là. Puis il faut s'obliger à y répondre à ces promesses-là pour trouver des solutions. Fait que l'inscription d'un droit pour tous les enfants à une place. Ensuite de ça, ben, c'est l'aide d'urgence en attendant. Tu sais, on a milité avec ma place au travail pour une aide financière pour les parents qui ne trouvent pas de place en garderie puis qui sont en congé sans solde, avec l'inflation, avec l'augmentation des coûts partout. Quand tu es une famille avec des enfants à charge, même si on pense aux familles monoparentales où il y a un salaire, tu perds ce salaire-là. Actuellement, la seule avenue possible pour les parents puis les parents de partout au Québec, c'est l'aide sociale. Puis ça fait aucun sens qu'il y ait cette espèce de manque au filet social actuellement pour des parents qui ont des enfants à charge, puis on connaît les impacts de la pauvreté sur toutes sortes de déterminants de la santé pour les parents, mais aussi pour les enfants. Donc moi, ça me préoccupe énormément. Je peux pas croire que la coalition Avenir Québec laisse tomber les familles en n'offrant rien, en sachant les impacts. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, c'est clair que je vais défendre, puis qui me crée énormément de frustration, un grand sentiment d'injustice, c'est vraiment là, je vais tout faire pour ouvrir cette porte-là, puis pour que ça soit mis de l'avant dans la campagne électorale, parce que c'est un non-sens pour moi là, de laisser ça aller.
Est-ce qu'il y a d'autres partis politiques qui vous ont approché pour que vous portiez leur couleur?
Oui, tous les partis, à l'exception de la CAQ et le Parti conservateur. Donc, il y a eu de l'intérêt. J'ai développé aussi des liens de travail là, avec ma place de travail, c'est transpartisan. On a vraiment été ensemble pour mettre cet enjeu-là de l'avant avec d'autres politiciens des différents partis. Donc, oui, il y a eu des mains tendues, des portes ouvertes. Je leur en ai remercié. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Mais pour moi, là, du moment où je pouvais visualiser un avenir en politique, c'était clair que c'était avec Québec solidaire.
Est-ce que j'ai bien compris que c'était le Parti conservateur du Québec que vous avez approché également?
Non, tous les partis, à l'exception de la CAQ et Parti conservateur, donc Parti libéral, Parti québécois, qui m'ont tendu la main là, comme Québec solidaire. Donc, j'ai eu à faire un choix, puis j'ai choisi vraiment en fonction de la vision à laquelle je crois puis mes valeurs profondes.
Madame Myriam Lapointe-Gagnon, fondatrice de Ma Place au Travail et candidate de Québec solidaire dans Rivière-du-Loup-Témiscouata, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne chance.
Bien, merci de m'avoir écouté, puis merci et bonne fin de journée.
Yasmine Abdel Fadel.
Pour nous rejoindre en studio,
studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
187 cube radio.
1877 827 2346. Cube radio. les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
Donc, on l'a vu, les élections arrivent et Québec solidaire a réussi à aller chercher Mme Myriam Lapointe-Gagnon comme candidate pour Rivière-du-Loup-Témiscouata. Je ne sais pas si Mme Gagnon va réussir à se faire élire, mais évidemment, ça contribue à ce narratif que veut se créer Québec solidaire pour devenir le champion des familles, malgré le fait que ce soit le parti politique ayant le moins de parents au sein de ces candidats. Donc, c'est l'heure de la rencontre avec mon ami Tom Mulcair. Bonjour, Tom.
Salut, Yasmine.
J'ai l'impression que tous les jours, on fait la longue description des échecs des libéraux fédéraux. Puis aujourd'hui, on n'y échappe pas non plus. Ils risquent de ne pas être en mesure de tenir leur promesse, la promesse forte qui fait en sorte qu'ils ont cette entente de non-agression, disons-le comme ça, avec les néo-démocrates de Jack Meetsing.
Oui, un bon papier de la presse canadienne qui essaie de plonger dans cette promesse phare qui a été faite par les libéraux fédéraux de Justin Trudeau pour justifier, pour et au nom du NPD, la signature de cette entente que beaucoup se grattaient la tête, mais disaient, qu'est-ce que le NPD a eu en retour pour le soutien des libéraux pour les trois prochaines années? Alors là, M. Singh, depuis le début, il pointe du doigt, il dit, non, regardez, là, je vais avoir ce super bon programme pour les soins dentaires d'ici la fin de l'année, c'est écrit dans l'entente. Sauf que le problème, c'est qu'il y a personne qui a encore vu l'entente. Trudeau y a fait référence et a lu des bouts. Singh a fait la même chose. Mais tu chercherais en vain une copie de l'entente signée par Trudeau et par Singh. Donc ça, c'est un peu mystérieux dès le départ en termes de forme. Mais maintenant, sur le fond, il ne faut jamais oublier, Jasmine, je sais que tu as fait du gouvernement pendant des années, c'est une chose d'avoir les bonnes intentions, c'est une autre chose de gérer les bonnes intentions, de les faire réalité. Alors, la question ici, c'est qui décide? Bien, c'est le gouvernement fédéral qui a promis de mettre en place un programme, puis je me permets de te donner un exemple contraire. Parce que le gouvernement du Québec fait bien des choses correctement, bien des choses pas correctement, même chose au fédéral, mais une des choses que le Québec sait faire, c'est de mettre en place un programme et de le gérer. Exemple que j'ai vécu, ça c'est notre système d'assurance parentale. Ça c'était poussé très fortement dans le gouvernement Charest par des femmes très solides oui. au sein du Conseil des ministres. Et ça, Charest était plutôt sceptique au début, mais une fois que la décision a été prise, ça a pris à peine quelques mois pour que, un, on établisse et on crée une infrastructure administrative bureaucratique dans une région décentralisée, Rouyn-Noranda, pour le nommer, ce qui était déjà en soi une bonne idée, ça crée des emplois en région plutôt que de toujours garder ses emplois à Québec. Et en plus, en dedans de quelques mois à peine, les chèques sortaient, le programme était mis sur pied, tout marchait. Ottawa est une catastrophe lorsqu'il s'agit de créer des programmes sociaux, des programmes gouvernementaux. Ils ne savent pas le faire. Ils ne sont juste pas bons là-dedans.
Et ils étaient quand même bons à envoyer des chèques pour la PCU, on va le dire. Il ne les comptait oui. pas trop, il ne savait pas à qui il les envoyait, mais mettre ça dans la boîte à mal, c'était pas pire.
Exactement ce que tu viens de dire. Donc, moi, je ne me plaindrais jamais que le gouvernement fédéral a tassé les préoccupations bureaucratiques lors de la pandémie pour dire, regardez, là, on regardera. Il va y avoir de la fraude, il va en avoir. Et on regardera ça après le cas échéant. Mais l'important, c'est qu'il y a des millions de Canadiens qui viennent de perdre leur emploi. On est dans une pandémie. Ça se peut pas que les gens n'aient pas d'argent pour mettre une épicerie sur la table. Puis, Jasmine, tu connais la statistique aussi bien que moi. La famille canadienne moyenne, c'est une vraie statistique, n'a pas plus que 2 semaines de salaire à la banque. Les gens vivent sur leur carte de crédit. C'est une triste réalité, mais c'est une réalité ici au Canada. Alors, il fallait faire quelque chose, puis ils ont bien fait. Mais ça, c'était, comme tu dis si bien, t'envoyais des chèques, tu regardais pas à qui, tu regardais pas comment, t'envoyais des chèques, puis le reste advienne que pourra. Ici, il faut que ce soit quand même un peu plus ciblé, parce que tu as le dentiste qui est le prestataire de soins, tu as la famille qui reçoit les soins, qui doit déterminer combien va être remboursé, c'est une assurance. Et ils sont juste pas capables de le faire. Je m'excuse de le dire aussi simplement, mais j'ai passé tellement de décennies dans des gouvernements, autant fédéral, provincial, puis j'ai travaillé beaucoup dans d'autres provinces et aux États-Unis, il y a des choses qui sont en commun dans les gouvernements. Et tu dois, t'as une bonne intention, il faut quand même que tu le gères. Il faut que tu détermines qui décide. Quand ce que tu fais ne marche pas, il faut faire autre chose. Puis, en administration publique, il y a juste ça. Il y a ce qui marche et ce qui ne marche pas. Le gouvernement fédéral ne sait pas commander une trombone. Ne sait pas.
Elle coûterait probablement plus cher si le fédéral la commande.
Elle coûterait plus cher qu'un avion de chasse. Puis, des avions de chasse, on n'est pas capable de les commander non plus. On a des navires de la marine qui tardent à venir, qui sont une catastrophe attendue, mais c'est une création d'emplois dans les maritimes, et ainsi de suite. On n'est pas bon. Au fédéral, c'est un gouvernement à répétition. CNN a publié la liste des pires aéroports au monde à la sortie de la pandémie. Numéro un au monde, tu sais, on peut mettre le doigt dans l'air. We're number one. Le pire au monde, l'aéroport Pearson à Toronto. Il n'y a pas de quoi être fier. Donc, en termes de gestion, le gouvernement fédéral est une catastrophe ambulante. Et l'exemple le plus récent, c'est l'incapacité de mettre sur place ce fameux programme pour aider les familles dont le salaire est en bas de 90 000 $ à avoir de l'argent pour payer le dentiste.
Mais parlons des conséquences politiques. Là, il y a les conservateurs qui n'ont pas encore de chef, qui vont en avoir un dès le 10 septembre prochain.
Exact.
Jack Metzing se retrouve un petit peu avec une patate chaude entre les mains. Là. Il fait quoi avec ça? Il leur donne un répit, rallonge cette entente-là, le temps de mettre le plan dentaire. Il doit faire quoi?
Quelle bonne question. Tu sais, j'ai donné des cours cet été. Il y a des trucs d'été à l'Université de Montréal. Et ça, c'est pour les jeunes, surtout de quartiers défavorisés, et qui viennent à l'université prendre goût à avoir des cours à ce niveau-là. Et c'était vraiment très plaisant. J'accepte de faire ça comme bénévole quand l'université met ça en place. Et c'est très, très agréable. Et il y avait une jeune femme, elle avait pas 15 ans. Et elle me regarde, puis le mâchoire qui tombe. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il a eu, Jagmeet Singh, en retour pour sa signature? Un programme dentaire. Mais Trudeau n'a toujours rien fait en matière de changement climatique et réduction des gaz à effet de serre. Pourquoi il n'a pas insisté là-dessus? Moi, j'étais d'abord très impressionné par le niveau de connaissances politiques. Mais c'est un peu ça la question clé. Il a eu quoi, Singh, en retour? Ben, il a eu pour lui-même 3 ans de paix. On ne voit pas beaucoup, Jagmeet Singh. Hein? Et il est là, il peut surfer, il peut faire son Instagram, il peut faire ses autres affaires. Et il peut dire, regarde, Trudeau m'a promis telle affaire. Mais là, il y a un échéancier qui s'en vient à pas de galop. Là, ils ont signé cette affaire-là il y a quelques mois. C'était un deal. C'était le deal qui pouvait montrer à sa base politique, parce que le NPD a toujours été là pour promouvoir, protéger les programmes sociaux. Et voilà qu'on apprend que la promesse phare est en train de tomber à l'eau. Le cabinet du ministre Duclos refuse ni de confirmer ni d'infirmer. Oh boy! La mise en place d'un plan temporaire. Le ministère était sur la bonne voie. Ah ouais? J'ai hâte de voir ça. Non, je pense que ça va être un échec.
Est-ce que Jack Meade va devoir publiquement déchirer l'entente puis menacer le gouvernement de le faire tomber dans un prochain vote de confiance avec les conservateurs?
En toute logique, c'est ce qu'il devrait faire. Mais là, de cataplasme en cataplasme, ils vont mettre en place un strafontain pour essayer de dire « Ouais, mais c'est pas tout à fait prêt, mais déjà les familles vont recevoir les chèques, ils vont avoir telle affaire. » Ils vont inventer une patente à casse. Ça, c'est des bons vendeurs d'huile à serpent. Ils vont dire que c'est pas ça, mais c'est ça, puis c'est pas encore tout à fait fini. Il va falloir qu'ils trouvent une manière pour eux autres et pour Singh de sauver l'affaire. Ça, c'est certain.
Ça risque de signer, finalement, la fin du leadership de Singh au sein du NPD. Si il a signé cette entente-là, il est incapable de la faire respecter et qu'il la maintient et il trouve des justificatifs auprès de ses militants pour expliquer son incapacité à la faire respecter, ne pas vouloir aller en politique, ne pas vouloir aller en élection. J'ai l'impression que peu importe le mouvement qu'il va faire, il va tomber de son poste de chef du NPD. Les militants ne vont pas étendre.
Ben, c'est-à-dire que les militants étaient un peu perplexes et je ne suis pas convaincu qu'un autre chef, dont moi, aurait pu vendre aux militants de base de donner leur appui à Justin Trudeau pendant 3 ans. Et oui, ça risque de se corser pour M. Singh, parce que les gens disent, mais c'était ça ton point de vente. Tu nous as dit qu'on avait ça en retour pour la signature. On a dit, ben, ça n'aurait jamais eu lieu parce que le NPD n'est pas au pouvoir. Si on a réussi à convaincre Trudeau de le faire, ça peut se justifier. Mais s'il n'a pas la chose principale sur laquelle il a misé pour vendre ça à ses militants et à ses membres, ça risque de se corser pour lui assez rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que le NPD a toujours eu un caucus assez discipliné. Contrairement aux conservateurs qui coulaient ce qui se passait sur la place publique, contrairement aux libéraux qui ont tendance à sortir les couteaux, puis le NPD, ça se calme, mais ça bourdonne au sein du caucus de ce temps-ci. Pas tout le monde est content de cette situation-là, puis ça se comprend. Imagine, t'es député NPD, ou candidat qui n'a jamais été député, mais tu regardes les prochaines élections dans 3 ans, ou 2, si Trudeau, parce que lui, il peut toujours tirer la plug plus tôt. Tu vas aller cogner sur les portes dans ta circonscription à Winnipeg ou à Toronto ou peu importe, Rosemont. Et tu vas dire, vote pour moi, Trudeau et ses libéraux, c'est une gang de pas bons. Puis là, les gens vont te regarder et te dire, excuse-moi là, mais c'est toi qui les as gardés là pendant 3 ans. Comment ça se fait que tu dis maintenant que c'est une gang de pas bons? Pourquoi tu les as maintenus au pouvoir si c'est une gang de pas bons? C'est ça qui risque d'être le plus compliqué pour eux autres.
À qui ça profite le plus chez les conservateurs, un Pierre Poilievre ou un Jean Charest, le fait que cette entente-là devient de plus en plus fragile et qu'on pourrait partir en élection plus tôt que ce qui était prévu dans cette entente?
Mais moi, j'ai l'impression que Charest a un bilan vraiment qui peut montrer qu'il sait gérer et il sait obtenir un résultat. Je viens de donner un exemple clair de l'assurance parentale. Donc, Charest risque de pouvoir dire, au-delà de toute autre considération idéologique, ça prend quand même un gouvernement qui sait démarrer la voiture. Et ça, avec les libéraux, on n'a pas ça. Puis c'est vrai, c'est pas une question de politique, c'est une question d'administration. Le gouvernement actuel est un des pires et des plus faibles que j'ai vu dans ma carrière de longue date. Pour ce qui est de Poilievre, ça lui permet quand même de faire son truc absolutiste qui fait à tout bout de champ, disant « oui, les gatekeepers, les gens qui sont là, gagnent de pas bon, moi je vais tout changer ça, je vais vous rendre les gens les plus libres au monde ». Au-delà de cette rhétorique qui mène nulle part, il va falloir que lui montre qu'est-ce qui changerait concrètement. Moi, j'ai un souvenir de Pierre Poilievre comme ministre, parce que j'étais chef de l'opposition, j'étais face à lui. Et ce que lui, il avait tenté de faire avec la loi électorale pour favoriser le Parti conservateur, pour rendre ça le plus difficile possible pour les gens de voter, et surtout les gens au rang inférieur de l'échelle dans la société côté socio-économique, ça, il voulait rendre ça très difficile de voter. C'est les gens qui étaient les moins bien placés qui allaient écoper, les gens donc les moins aptes à voter conservateur. Ça, c'était le plan de Pierre Poilievre. On a réussi à le battre là-dessus. Il était obligé de reculer. C'était trop gênant, même pour Stephen Harper. C'était trop grotesque, même pour Stephen Harper. Donc, c'est le même Pierre Poilievre qui s'amène maintenant, parce que ça a l'air que les carottes sont cuites. Moi, je veux bien que les gens autour de Charest disent, bon, on a un passage possible telle manière. Moi, je le vois plus mathématiquement où est ce chemin de Charest. Depuis qu'ils ont évincé, sur des prétextes tellement faibles, Patrick Brown, je vois pas le chemin de Charest. Mais en termes de qu'est-ce qui peut faire quoi, Charest a une très grande longueur d'avance sur Poilievre en termes de réaliser des choses concrètement en termes d'administration publique. Le bilan de Poilievre là-dessus, c'est vide.
Et pour conclure, Tom, j'aimerais t'entendre sur est-ce que cette entente-là et sa fragilité va accélérer la réflexion de Justin Trudeau sur son avenir politique?
Moi, je pense qu'il est un opportuniste. Il a son nez toujours dans le vent. J'ai lu un article publié au cours des derniers jours dans un truc académique à l'Université de Toronto par un jeune qui a fait son doctorat à l'Université McGill. Il s'appelle Christopher Orr. Et lui, il regardait l'époque de Pierre Trudeau sur l'environnement, puis il montrait que Pierre Trudeau avait des bonnes idées progressistes, environnement, développement durable, avant même que le terme soit consacré. Il a dit, mais ils n'ont jamais rien fait. Ils avaient des bonnes intentions, une excellente analyse, mais ils n'ont jamais réussi à faire ce qu'ils promettaient. C'est un peu ça, Justin Trudeau, son bilan. Il commence sa 8e année
oui.
À l'automne. et au mois d'octobre. Et le bilan est tellement mince. Je pense que tantôt, Yasmine t'a donné... j'ai une bruit qui s'appelle Jasmine. Alors, parfois, ça sort comme ça.
Il n'y a pas de problème.
T'as donné l'exemple de ce qu'ils ont bien fait, s'occuper de la pandémie. Je pense qu'ils vont toujours pouvoir dire les vaccins, la pandémie, ils ont fait une bonne job. Je pense que tout le monde qui est objectif va concéder ça. Mais pour le reste, là, le bilan est assez mince. Beaucoup de promesses, très peu de réalisations. Est-ce qu'il va... Moi, je connais Trudeau. Tu sais, tu finis par connaître ton adversaire. Tu passes du temps avec, tu connais un peu le caractère. Trudeau, c'est un gars par nature. Ah oui, tu me dis que je ne peux pas faire ça? Garde-moi bien aller. Si les gens disent que tu n'as aucune chance contre Poilievre, ouais, il va vouloir se mesurer à Poilievre. Par contre, les têtes un peu plus froides au sein du Parti libéral fédéral risquent de lui dire, garde, dans les...
Prends un grand respire.
Dans le théâtre, on a Chrystia Freeland qui est toute prête et Mark Carney. Il y en a d'autres. Peut-être Champagne qu'il... va s'essayer. Et ça risque. Moi, j'ai l'impression qu'il va lever l'ancre d'ici un an.
Probablement plus tôt que tard. Tom Mulcair, toujours un plaisir.
À bientôt.
On se retrouve demain.
Cube Radio. Yasmine Abdel Fadel. Une main de fer dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur. Qui dit quoi?
Cube Radio.
Cube Radio.
En direct à LCN.
Été préélectoral, évidemment, avec la campagne qui approche à grands pas et nécessairement qu'on parle beaucoup, peut-être plus de politique cet été qu'habituellement c'est le cas l'été. On va aller parler avec notre collègue Yasmine Abdel Fadel des studios de Cube Radio. Bonjour Yasmine.
Bonjour Marianne.
Parlons tout d'abord de François Legault, qui, bon, dit croire finalement la version de sa députée Marie-Ève Proulx, alors que le journal nous apprenait là, dans les dernières heures qu'il y a une autre plainte qui a été formulée contre elle.
J'ai eu un malaise à entendre le premier ministre dire de croire la version de sa députée. Pas parce qu'il ne faudrait pas la croire, mais parce qu'il n'a pas, lui, à se substituer à ce juge qui va devoir entendre les deux versions au tribunal administratif du travail. Quand le premier ministre sort publiquement et dit auprès des médias « Je crois la version de ma députée, celle que la plaignante n'avait pas de raison de porter ces allégations-là », moi, ça, j'ai un peu de misère avec ça. On sait qu'il y a un processus qui est en place, qu'il y a une plainte formelle qui a été logée au tribunal administratif du travail. On devrait se garder une petite gêne. Je comprends qu'on est à quelques semaines des élections, mais c'est pas une raison pour escamoter un processus judiciaire en bonne et due forme. Je pense que le premier ministre aurait dû plutôt dire que ce n'est pas à lui de juger quelle version est la bonne et dire que les tribunaux vont finir par statuer, même s'il ne veut pas faire payer à sa collègue et à sa députée les prix d'une allégation. Il aurait pu le formuler autrement. Mmh. Et là, d'un autre côté, on voit Dominique Anglade qui dit que ça devrait être une politique zéro tolérance pour l'harcèlement psychologique. On comprend que dans les faits, personne ne devrait supporter l'harcèlement psychologique ou y trouver des justificatifs, mais on a aussi un autre extrême où Madame Anglade a montré la porte à Marie Montpetit sans qu'il y ait ce même processus juridique. Donc, on a deux chefs de parti ici qui se substituent à des juges, qui se substituent à des processus rigoureux pour déterminer quelle version est la plus véridique, quelle version il faut croire, quelle version est la bonne. Et malheureusement, la politique, ben souvent on aime utiliser, on peut pas commenter parce que c'est devant les tribunaux. Ben là, ça aurait été une excellente opportunité.
On dit la langue de bois. Souvent, on reproche cette langue de bois.
Ouais. Ouais. Mais malheureusement, c'est quoi le message que ça envoie à ces victimes alléguées d'harcèlement psychologique en dire, ben moi j'ai parlé à Marie-Ève Proulx, puis je trouve que sa version, elle a de l'allure, puis moi je la crois. Ça veut dire qu'on ne croit pas celle de la plaignante. Êtes-vous rentré en communication, monsieur le premier ministre, avec la plaignante? Comment vous avez mené ce processus-là? Ça m'a fait un petit peu dresser les cheveux hier quand j'ai entendu ça. Ça manque de prudence de la part du premier ministre.
Autre sujet, la CAQ, qui compte le plus, finalement, de parents parmi ses candidats? Je comprends que pour Québec solidaire, ce sont des jeunes parents là, avec de jeunes enfants, mais quand on fait vraiment le cumulatif, là, ce sont surtout à la CAQ où il y a le plus de parents.
Ben, c'est ce qu'on nous apprend le Journal de Montréal ce matin. On le sait, tous les partis politiques veulent s'accoler l'étiquette de le champion des familles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mmh. Quelle définition donne-t-on au champion de la famille? Faut-il tout simplement être un parent pour être un champion des familles? C'est court peut-être comme définition, mais on apprend à tout le moins qu'en date d'aujourd'hui, puis c'est important de dire que c'est en date d'aujourd'hui, parce que les autres partis politiques n'ont pas fini de procéder aux nominations de leurs candidats et leurs candidates à travers le Québec. Donc, il peut y avoir des chiffres qui sont manquants aujourd'hui, mais la CAQ est à 81% suivi par le Parti libéral, Parti conservateur, le PQ et Québec solidaire. Encore une fois, une autre donnée qui est importante, c'est que la moyenne d'âge à Québec solidaire est de 39 ans, qui est en deçà de la moyenne des autres partis politiques. Donc, peut-on comparer des pommes et des oranges? C'est différent ici. Le parti champion des familles, c'est celui qui propose des idées, des propositions, des engagements et des actions pour aider les familles du Québec. On n'a qu'à penser au problème des garderies, au problème des allocations familiales, à l'inflation qui est rampante, à l'économie. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent toucher les familles, les écoles, la santé, avant de pouvoir s'accoler l'étiquette de parti des familles.
Ouais, disons que dépendamment de l'âge de nos enfants, les préoccupations sont bien différentes aussi là, entre se chercher une garderie et se demander comment notre enfant va financer sa première maison. Disons qu'il y a pas mal d'années qui séparent tout ça. Merci beaucoup, Yasmine. On se parle demain.
À demain.
Ex-conseillère politique. Et ça, ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel.
Il y a cette nouvelle application sur votre cellulaire qui a pour but de contrer les féminicides et la violence conjugale. On connaît, on le sait, ces fléaux qui nous frappent de plein fouet depuis déjà quelques semaines. On est rendu à notre 6e féminicide. Ça commence à en faire beaucoup. Et c'est créé par l'entreprise Canada Digitalisation, cette application qui s'appelle LogGuard et qui vient d'être mise à jour. Et nous avons avec nous Paul Bongi, président de Canada Digitalisation. Bonjour, Monsieur Bongi.
Oui, bonjour, madame. Comment allez-vous?
Ça va très bien. Alors, expliquez-nous LogGuard. Ça consiste en quoi? Comment on peut l'utiliser?
Alors, ça consiste juste avec votre téléphone intelligent iPhone ou Android. Si vous allez sur Apple Store, juste en tapant LogGuard, L-O-C-K-G-U-A-R-D, ou sur Android, Google Play Store, vous téléchargez l'application, elle est gratuite. Vous ajoutez les numéros de téléphone de vos proches, en fait, de vos voisins, parce que lorsqu'on a, par exemple, un cambriolage ou une scène de violence conjugale, c'est les voisins qui sont les plus proches. Vous pouvez ajouter le numéro de vos amis aussi. Vous pouvez ajouter vos adresses courriel, je vous expliquerai pourquoi. Et là, quand vous êtes en danger, il suffit juste de secouer votre téléphone assez fort. Quand vous le secouez, ça va envoyer un SMS avec votre position, votre localisation à tous vos proches, en fait. Et parmi tous vos proches que vous avez choisis, s'il y en a 10 ou 15, vous allez choisir un qui est prioritaire en cochant un cœur bleu et ce proche-là va recevoir l'appel. Donc, il y a deux actions qui sont faites.
Alors, deux actions qui sont faites lorsqu'on se sent qu'on est en danger, que ce soit dans une situation de violence conjugale. Est-ce que ça peut être utilisé dans d'autres situations où on se sent menacé, on a peur pour notre intégrité physique?
Exactement. C'est-à-dire de manière discrète. Par exemple, pour les aînés aussi, on a vu pendant la pandémie, pour nos aînés qui vivent seuls ou en résidence, de secouer leur téléphone. Pour nos jeunes, nos adolescents, quand ils rentrent de l'école, ils sont tout seuls sur la route. Ça peut servir dans tout type de situation d'urgence, en fait. Je peux faire là, je suis là, je fais une crise, par exemple. Je secoue mon téléphone assez fort, ça envoie un SMS à mes proches avec la localisation et ils sont alertés, ils savent là où je suis et ils peuvent intervenir, en fait. Je suis cambriolé, par exemple. Les voisins peuvent... Ça peut aussi être pour la communauté entre voisins, en fait. Surveillance de quartier.
Et ça coûte combien? Est-ce que c'est une application qui est payante?
Alors, l'application, le téléchargement, il est gratuit. On peut l'utiliser gratuitement la première semaine. Et après, comme il y a des frais de maintenance, des développements aussi pour des nouvelles fonctionnalités, l'abonnement après la une semaine, c'est 2,99 le mois, ce qui est moins cher qu'un café.
2,99 le mois pour pouvoir avoir accès à toutes les fonctionnalités.
À toutes les fonctionnalités, oui.
Combien de temps ça vous a pris de développer cette application? Puis ça vient de quel... ça a été quoi l'élément déclencheur où vous vous êtes dit que ça pourrait être une bonne idée?
Alors moi, l'élément déclencheur, c'est parce que moi, j'ai une conjointe, j'ai une petite sœur, j'ai une grande sœur, j'ai une maman. Donc ce qui fait que les féminicides, l'augmentation des féminicides suite à la première pandémie avec les premiers confinements, je me suis dit avec mes petites connaissances que j'ai en informatique, avec mon background, qu'est-ce que je peux faire pour donner une contribution humble, en fait. Il y a eu le projet de loi, tout ça, il y a des manifestations, oui, mais un projet, quelque chose de concret. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas avoir une application mobile, vu que tout le monde a son téléphone à tout moment. Il y a plus de 30 millions de téléphones intelligents au Canada, donc pourquoi pas faire quelque chose que tout le monde puisse se l'approprier. D'où j'ai eu cette idée, en fait.
Et vous êtes ingénieur informaticien, quel est votre background, disons ça comme ça?
Background, école d'ingénieur en informatique, et après j'ai aussi fait de la gestion de projet. Donc ce qui fait que pour le projet en lui-même, cette application, j'ai pu le faire, d'où j'ai pu le monter en fait, de A à Z.
Est-ce que cette application a connu un certain succès depuis son lancement? D'ailleurs, depuis quand est-elle disponible et combien de téléchargements a été fait depuis?
Alors, c'est juste depuis hier, en fait, que toutes les mises à jour ont été faites, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Apple Store et Google Play Store. C'est juste depuis hier, en fait, que c'est disponible.
Et j'imagine qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui l'ont téléchargé?
Il y a bien des gens qui ont commencé à le télécharger. On va commencer à en parler, à faire du bouche à oreille. Voilà.
Eh bien, c'est très intéressant. Monsieur Bongi, on va suivre ça de très près. On espère que cet outil-là va pouvoir servir à prévenir des violences conjugales et des féminicides. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Yasmine Abdel-Fadel.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 cube radio.
1-877-827-2346.
Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
Il y a ce pédophile en Saskatchewan qui a déclenché une alerte Amber en kidnappant deux enfants. C'est une histoire assez nébuleuse, Félix Séguin. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, on va faire le tour de cette question. Il y a Benjamin Martin Moore, c'est lui le pédophile en question, qui aurait kidnappé les deux petits, Luna et Hunter Potts. Et c'est arrivé lundi, là, selon la Gendarmerie royale du Canada. Moore, lui, le pédophile, donc, a déjà été condamné dans le passé pour agression sexuelle, possession de pornographie juvénile aussi. On en parle aujourd'hui parce que hier, on a un peu manqué ça, mais si vous allez sur le site du Journal de Montréal, vous allez voir le texte complet à ce sujet-là fait par l'agence QMI. Moi, c'est une histoire qui m'effraie énormément, là, parce que ils sont présumément enlevé par quelqu'un qui leur veut du mal. C'est pas comme un rapte familial, c'est assez différent. Alors, la GRC croit que les enfants sont en danger. Et comment ça commence, cette affaire-là? C'est que la GRC est appelée pour venir en assistance au ministère des Services sociaux en Saskatchewan dans le cadre d'une enquête qui porte sur des allégations qui concernent le suspect. On sait pas c'est quoi ces allégations en question. Alors, la GRC se présente au domicile de la famille, là, des deux jeunes. Et on constate que tout le monde a fui les lieux. La GRC a dû attendre longtemps que le ministère des Services sociaux émette une ordonnance d'arrestation pour pouvoir déclencher la fameuse alerte.
Est-ce qu'on sait si le suspect connaît les jeunes enfants? Il les connaît pas, c'est dans son entourage?
Ben moi là, l'idée que ça me fait quand je lis cette phrase là, parce que je te la lis directement tirée du communiqué entre autres de la GRC, c'est qu'on ne peut pas le dire. D'après moi, étant donné que les services sociaux, donc services de protection de l'enfance ou l'équivalent de notre direction de la protection de la jeunesse, semblent être dans ce dossier en Saskatchewan, probablement qu'on ne peut pas parler des liens qui unissent le suspect et les enfants, s'il y en a, j'imagine que c'est pour ça. Quoi qu'il en soit, la police pense que les enfants se trouveraient avec M. Moore aux États-Unis, peut-être dans le Dakota du Sud, c'est l'État limitrophe de la Saskatchewan, entre autres, mais pourraient tenter de revenir au Canada. Bon, Moore, ça fait un peu plus de 10 ans, là, ça fera bientôt 15 ans là, qu'il a été reconnu coupable d'attouchement sur des mineurs puis de possession de pornographie juvénile. T'imagines l'inquiétude quand tu sais que des enfants sont avec un type pareil en fuite. Mon Dieu, moi, je lis, à chaque fois que je lis cette histoire-là, je frémis, vraiment.
Mais je me pose la question, tu sais, il y a comme plein de questions qui m'arrivent en tête. Comment il a pu traverser la frontière? S'il a déjà un casier judiciaire, comment les Américains ont pu le laisser rentrer aux États-Unis? Comment on fait rentrer deux enfants, pas de parents, aux États-Unis sans que personne pose la question? Il y a comme une série de questions à laquelle on n'a pas de réponse actuellement.
Exactement, et c'est le propre des alertes Amber aussi, parce que les policiers se gardent énormément d'informations. C'est d'ailleurs quelque chose qui ne fait pas l'unanimité. Ils se gardent beaucoup d'informations pour fin d'enquête, alors que on se dit toujours qu'en diffuser le plus serait en tout cas du point de vue de l'intérêt public pour retrouver le suspect, surtout les enfants en bonne santé, ce serait la chose à faire. Mais bon, c'est pas nous qui sommes dans les souliers de la police, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on a vraiment, dans ces cas-là, je pense, là, une zone où les médias et la police ne s'entendent pas. Puis dans ce cas-là, sais-tu quoi, Yasmine, je pense que c'est souvent la police qui a raison. Parce que c'est elle qui a en main les éléments les plus critiques pour préserver cette chasse à l'homme-là.
Absolument, voilà. Bien sûr. On pourrait... Imaginons un dénouement, espérons un dénouement heureux à cette histoire, éventuellement avoir plus de détails sur ce qui a pu se passer. Il y a cette crise des opioïdes qui continue quand même de secouer les États-Unis.
Moi, c'est un sujet qui me passionne, que je vois sous la lorgnette de la santé publique, je te dirais, juste pour t'expliquer pourquoi, en fait. Moi, dès le début de la crise des opioïdes aux États-Unis, il y a quoi? Près d'une dizaine d'années maintenant, là, je m'étais déplacé dans un État que l'on connaît très bien, le Vermont, pour aller à Burlington, entre autres, pour aller à Montpellier, la capitale du Vermont, parce que déjà, dans cet État du nord des États-Unis, on voyait les ravages des opioïdes. Hein? On sait comment la crise des opioïdes a commencé, en fait, c'est que il y a eu, et c'est documenté, il y a plusieurs, d'ailleurs, documents, justement, qui existent à ce sujet-là, il y a eu une surprescription, à un certain moment donné, aux États-Unis, d'opioïdes synthétiques pour traiter des douleurs médicales. Donc, les médecins ont beaucoup prescrit, exemple, d'oxycontin. L'oxycontin que consommaient certains patients vient qu'à créer, et crée assez rapidement l'accoutumance, et quand le médecin cesse de prescrire l'oxycontin, les patients se tournent vers le marché noir, et sur le marché noir, il y a un tas de merde qui est vendu, dont de l'oxycontin, mais dont aussi d'autres opiacés synthétiques, dont le fentanyl, qui est, comme tu le sais, beaucoup plus fort que l'oxycontin, etc. Alors, il y a un texte vraiment très intéressant qui est reproduit aujourd'hui dans le journal. C'est un texte de l'agence France-Presse, mais je vous conseille d'aller voir ça. Ça raconte l'histoire de Michaela Cox. C'est une élève du secondaire en Virginie. Elle pensait prendre un médicament pour traiter la douleur, l'anxiété obtenue par un ami. Par contre, la pilule qu'elle a avalée tout juste après son 16e anniversaire, c'était du fentanyl, donc 50 plus puissant que l'héroïne, et elle est morte presque immédiatement. Et là, tu comprends l'horreur, on parle pas juste de gens qui se trompent, on se demande pourquoi ces pilules-là entrent dans les maisons. Ben c'est à cause du marché noir. Puis là, dans l'article de l'AFP, la mère de cette fille-là témoigne, c'est rough. Il y a eu 80 000 personnes qui sont mortes d'overdose par opiacé l'an dernier aux États-Unis. Pour la plupart, ce sont des drogues synthétiques de synthèse, donc comme le fentanyl. C'est 7 fois plus qu'il y a 10 ans quand la crise a commencé. T'imagines le problème de santé publique, Yasmine, aux États-Unis? Ray Donovan, là, qui est le responsable de la fameuse DEA,
oui,
dit que c'est l'épidémie la plus dangereuse qu'on a vécue depuis toute l'histoire du trafic de drogue aux États-Unis. C'est pas rien. Chez les jeunes, écoute les stats, en 2019, 493 adolescents décédés d'overdose, des ados. Donc ça, c'est 2019. Deux ans plus tard, 2021, 1146.
C'est énorme. Puis je me dis comment ces jeunes-là tombent sur des pilules comme ça, tu sais, quand t'es un adolescent. Je comprends, là, la drogue, c'est partout, puis c'est facile de s'en procurer, mais tu sais, c'est des overdoses, là.
Ben c'est oui, c'est des overdoses, puis c'est les moyens d'entrer en communication avec les jeunes aussi qui posent beaucoup de questions dans ce cas-ci. Et les réseaux sociaux sont devenus, c'est malheureux là, mais les réseaux sociaux. Moi, je suis dans un débat présentement. On est dans un débat, moi et ma femme que tu connais bien, sur l'éducation que l'on doit donner à nos enfants quant aux réseaux sociaux. J'ai une fillette de 11 ans qui meurt d'envie d'avoir des comptes TikTok, d'avoir des comptes Instagram, d'avoir des comptes Facebook, et etc.
Snapchat.
Et Snapchat et tout ça. Bon, en tout cas, pour conclure cette partie d'histoire personnelle de fil en aiguille, on lui a téléchargé TikTok, mais avec un compte parental. En tout cas, c'est très, très, très encadré, etc. Finalement, très heureux. Elle n'aimait pas ça, elle s'ennuyait. Donc là, elle a maintenant un compte Instagram où elle peut suivre uniquement les membres de sa famille. Bon, et quelques amis très proches. Et puis, en toute transparence, on voit ce qu'elle peut publier. On autorise les publications. En tout cas, bref, tout ça pour dire que...
Hey, c'est tout un casse-tête pour des parents.
Hey, je te jure. Et tout ça pour dire que, tu sais, on est deux parents journalistes. Donc, on est très conscients. Parce qu'on fait des reportages à ce sujet-là, ou si on les fait pas, on les voit passer, que les influences, certaines mauvaises influences, entrent par la porte des réseaux sociaux. Puis dans le cas de la facilité de se procurer des opioïdes, ça arrive aux États-Unis par Snapchat, par certains. Là, c'est des comptoirs de vente en ligne qui sont comme déguisés en promettant certains produits, mais en fait, on sait très bien que c'est des opioïdes. Alors... Aïe. Écoute,
le fentanyl, dans l'article auquel tu fais référence, tu sais, je vois que cette drogue-là fait un succès fou auprès des jeunes parce qu'elle coûte pas si cher que ça par rapport, par exemple, à de la cocaïne ou à de l'héroïne. On parle d'un kilogramme de produits purs par les groupes criminalisés. Ça coûte à peu près 12 000 $ pour que le groupe criminalisé l'achète. Et ensuite, ça le transforme en, là, je parlais d'un kilo, il le transforme en 500 000 de pilules. Chaque pilule coûte 30 $. Imaginez l'argent fou qu'ils se font. Imaginez combien, quand on trouve 500 000 de pilules, c'est 500 000 de consommateurs ou de pilules qui vont être consommées. C'est ça qui crée des overdoses dans les salons, dans les chambres à coucher des enfants.
Bien sûr. Puis c'est aussi... cette consommation-là non supervisée, exemple, c'est pas pour rien que les différents centres de prévention suggèrent aux narcomanes de consommer, surtout aux héroïnomanes, entre autres, de consommer accompagnés afin qu'ils puissent réguler un peu leur situation s'ils tombent sur une mauvaise drogue. Sauf que chez des adolescents qui ne sont pas encore narcomanes, cette habitude de consommation... n'est pas là, et c'est là où la dose, un gramme peut faire la différence, ben pas juste un gramme, là. On parle de les fameuses têtes d'épingle, là, mais où un grain de fentanyl peut faire la différence entre la vie et la mort, donc plus j'en parle de cette affaire-là, puis plus je me dis qu'il faudrait peut-être encore refaire, et ça me donne l'idée de le faire dès cet après-midi, je vais poser quelques questions, de refaire le portrait au Québec, parce que quand on avait tenté de regarder si, exemple, le Canada suivait la courbe des États-Unis quant à cette épidémie d'opiacés, on avait trouvé que non, pas tant. À part Vancouver, évidemment, là, et sa fameuse rue Hastings, où il y a énormément... ce qui est un lieu de perdition incroyable pour une certaine... classe très pauvre de la société et toxicomane. On regardait aussi si ça pouvait se reproduire au Québec quand le fentanyl a commencé, tout ça, puis pas tant. Alors, ça me fait l'idée qu'on devrait refaire un état des lieux là-dessus.
Il y a aussi cette histoire de Locke Merville qui continue de faire parler de lui pour les mauvaises raisons et il se fait réclamer pas moins qu'un 500 000 $.
Ouais, par un investisseur qui lui reproche d'avoir entraîné dans un projet pas tout à fait clean de fibre optique en Afrique. Selon la poursuite qui est intentée par Victor Stanley Management et que Merville conteste d'ailleurs, là, il semble qu'il soit le cerveau d'une opération, là, que Merville, selon les prétentions de la demanderesse, là, et qu'il utilise la supercherie puis le mensonge pour frustrer, je te lis un extrait du jugement, là, les droits de la demanderesse sur ses biens en argent. Alors, selon le document de cours, ça a commencé en 2020. Merville aurait sollicité cette entreprise-là pour investir dans un projet d'affaires en RDC, donc République démocratique du Congo. Il fallait investir 1,2 million millions US dans une société française pour déployer un réseau de fibre optique en Afrique centrale. Merville affirmait, selon toujours les prétentions de la demanderesse, que la société était évaluée à 12 millions par une firme indépendante. Alors, il semble que ce soit pas tout à fait ça. Il semble que l'équipement de la firme est en piètre condition, ça consistait en deux antennes usagées qui n'étaient pas tout à fait en condition, qui étaient situées dans un bureau de poste. Donc, genre de supercherie alléguée là, des demandeurs dans tout ça. Alors, Locke Merville, qui a déjà eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec la justice.
Moi, je suis toujours impressionnée par ces investisseurs à qui on leur dit, ben c'est une entreprise évaluée à 12 millions de dollars pour un projet de 1 milliard de dollars. Puis, on a besoin d'argent, puis eux qui décaissent. Impression que moi, tu fais un petit peu plus de vérification.
Moi, je suis toujours impressionné par Locke Merville parce que au début, hein, Locke Merville, après le tremblement de terre en Haïti en 2010, on le portait au nu, hein, n'est-ce pas? Puis on l'interviewait avec son projet Village-Village pour fournir des abris, qui est pas un projet qui naît d'une mauvaise idée, mais là, après ça, on apprend que Locke Merville aura eu des comportements extrêmement douteux dans sa vie privée. On apprend également plusieurs allégations qu'il a toujours niées, d'ailleurs, de fraude, etc. Écoute, je dois profiter du fait que c'est une chronique ici où on a une libre portion d'opinion là. Tu sais, les journalistes qui ont à côtoyer des personnalités comme ça, on se dresse un petit carnet noir là, de ceux qui sont pas très gentils avec nous. Et je te laisse en te disant ceci. Pour plusieurs d'entre nous, Locke Merville trônait au haut de cette liste.
De ce petit carnet, voilà. Que j'aimerais trouver. Ouais. Je devrais m'en faire un, des petits carnets. Je commencerai rapidement à le remplir. Ça me vient comme ça très facilement, Félix Séguin. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Bye.
Ça marche.
Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
C'est donc tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain 7h le matin. Je vous laisse entre les mains de mon collègue Alexandre Morin-Ville-Ouellette. Je vous souhaite une excellente journée.
Cube Radio.